Bonjour, je suis Stéphanie Gallet, je suis journaliste à la radio RCF et je vais animer un petit peu cette rencontre. Cette rencontre va être rediffusée sur RCF mardi prochain. Donc si vous avez des amis qui sont pas là ou si vous-même vous les réécoutez, ça sera à partir de mardi à 21h sur RCF et puis en podcast sur le site du Centre Sèvres ou sur le site de RCF. La forme, vous allez voir, je vais redire bonjour officiellement après, parce que je vais saluer les auditeurs. Je voulais juste vous prévenir et puis d'abord aussi vous remercier d'être là. Bonjour à tous. Nous sommes au Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, pour notre désormais traditionnelle rencontre des mardis d'éthique publique. Une soirée qui sera retransmise sur la radio RCF et j'en profite pour saluer les auditeurs. Alors ce mardi 7 décembre, au lendemain de la visite du pape sur l'île de Lesbos et de son criant appel en faveur d'une véritable hospitalité, et alors que la campagne électorale pour la présidentielle commence à battre son plein, nous allons parler ce soir avec nos invités de la fraternité chrétienne face aux défis de la crise migratoire. Une soirée préparée par la revue Projet, la revue des Jésuites du CERAS. Alors c'est François Heuvé, jésuite bien connu dans ces murs et sur ces ondes, qui conclura la soirée. Et je laisse à Benoît Guilloux, rédacteur en chef de la revue Projet, le soin de l'introduire et de présenter nos invités.
Bonsoir. Écoutez, on est très heureux de vous présenter donc notre dernier dossier de la revue Projet, François, la fraternité sans frontières. Donc un sujet qui est au cœur de l'actualité. Nous sommes partis d'un constat, c'est que la situation actuelle nous semble paradoxale. Au sein de la société française, nous trouvons des catholiques parmi les plus engagés dans l'accueil et la solidarité aux migrants. Et parallèlement, depuis quelques années, de plus en plus de fidèles s'opposent au pape François sur la question de l'immigration et sa conception de la fraternité développée dans l'encyclique Fratelli Tutti. Cette situation soulève plusieurs questions, mais il y en a deux qui nous semblent centrales. Que valent les arguments des détracteurs du pape François? Et le message de l'Évangile, est-ce qu'il peut être interprété au gré de chacun jusqu'à légitimer des positions radicalement contradictoires? Je ne suis pas sûr qu'en 1 heure on épuise la question, mais en tout cas, ça vaut le coup de réfléchir ensemble. À l'approche de l'élection présidentielle, face à la fureur médiatique, il nous semble absolument essentiel de développer une réflexion de fond sur la fraternité à l'épreuve de la réalité. On touche à un point faible de nos sociétés, ne rester qu'avec ceux que l'on a choisis. Or, comme le souligne le philosophe Olivier Abel dans ce dossier, nous avons besoin du correctif de la fraternité, tant biblique que républicaine, dont la force est d'énoncer la solidarité avec ceux qui sont là et que nous n'avons pas choisis. Plus concrètement, pour prendre à bras-le-corps cette controverse, eh bien, écoutez, dans notre dossier, on a passé au crible les arguments de trois philosophes catholiques souverainistes. Sans les mettre sur un même niveau, citons Pierre Manant, Rémi Brague et Chantal Delsol. Il ne s'agit pas d'un dossier à charge. Il ne s'agit pas d'un dossier pour défendre le pape François, ni les jésuites, ce n'est pas notre objet. En revanche, on estime que cette controverse nous permet de poser des questions de fond, essentielles et pas faciles. Parmi trois questions que l'on explore dans le dossier, la première, comment sortir de l'opposition aux réalistes de la politique, aux utopistes de la morale? Une autre question donc délicate, comment dépasser l'opposition entre fraternité universelle et légitime attachement à une identité nationale? Autre question, est-il justifié d'établir une frontière étanche entre ce qui relèverait de la morale et du domaine de la politique? Donc, fidèle à la ligne éditoriale de la revue Projet, au carrefour entre le monde associatif et le monde académique, ce dossier se décline en deux parties. Donc, une première partie qui était élaborée de façon très étroite avec la faculté jésuite du Centre de Sèvres. Donc, on donne la parole à un théologien, un exégète, des philosophes. Et la deuxième partie, on a plus un éclairage à partir de l'expérience d'acteurs de terrain. Donc on a voulu conjuguer le sensible et l'entendement, l'intelligence du cœur et de la tête. Donc, à présent, on va donner la parole et je remercie nos intervenants. Donc, dans un premier temps, Alain Thomasset, que vous connaissez, qui est jésuite, théologien, qui a écrit un papier sur la parabole du bon samaritain. Ensuite, Véronique Devis, la nouvelle présidente du Secours catholique, apportera son témoignage, comme présidente, mais aussi enracinée sur le terrain. Et enfin, c'est Véronique Albanel, que vous connaissez aussi sans doute, qui est présidente de JRS France, qui a écrit un papier dans ce dossier sur l'actualité de la pensée de Carl Smith. Merci à vous.
Alain Thomasset, nous allons commencer par vous écouter. Dans le numéro de la revue Projet, vous avez écrit un article sur l'évangile du bon samaritain, une évangile qui est au cœur de l'encyclique Fratelli Tutti, une parabole qui donne lieu à des lectures parfois très contradictoires, avec en hiatus cette question, hein, cet évangile nous indique-t-elle un comportement personnel ou un comportement collectif ?
Merci, bonjour à tous. C'est vrai que dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape insiste longuement sur la parabole du bon samaritain, car elle lui sert de fondement spirituel à toute la démarche de défense de la fraternité et de l'amitié sociale, qui lui semble indispensable pour assurer une vie sociale et politique saine, et aussi pour lutter contre les enfermements de toutes sortes qui nous menacent, égoïsme, perte du sens social, perte du bien commun, nationalisme étriqué, exacerbé ou agressif. Comme on l'a déjà signalé, certains auteurs chrétiens ont contesté son analyse de la parabole et tout particulièrement son impact sur les politiques nationales concernant l'accueil des étrangers. Pour eux, cette parabole dessine avant tout le portrait du Christ et ne concerne donc éventuellement qu'un appel à la générosité individuelle et facultative. Elle ne saurait en aucun cas avoir un impact collectif ou politique et concerner les États. Alors, quelle est la signification de cette parabole ? Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette position ? Je rappelle tout d'abord que la parabole s'insère dans un cadre plus large. Le légiste demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» La question, c'est d'obtenir la vie et de faire quelque chose pour cela. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu lis dans la loi ?» Et il répond « Aimer Dieu, aimer son prochain. » Et Jésus répond « Fais cela et tu vivras. » Et c'est voulant se justifier que le légiste pose alors la question « Et qui est mon prochain ? Qui est-ce que je dois aimer ?» Et Jésus raconte l'histoire que nous connaissons, qui est la parabole du bon samaritain, où un homme est blessé au bord de la route, un lévite, un prêtre passe et ne s'arrête pas, puis un bon samaritain s'arrête et s'occupe de lui. Dans la tradition chrétienne, cette parabole a reçu plusieurs interprétations. La première interprétation, celle des pères de l'Église, est allégorique et spirituelle. Le bon samaritain, c'est le Christ. C'est le Christ qui vient sauver l'homme abandonné au bord du chemin, victime du péché et de la mort. Donc, le samaritain, c'est le Christ. Mais une autre interprétation, tout aussi ancienne, nous invite au contraire à dire « Cette parabole nous concerne nous aussi. Ce n'est pas seulement le Christ, c'est aussi chacun de nous qui sommes appelés à une attitude de miséricorde à l'égard des démunis. » D'ailleurs, à la fin de son dialogue, Jésus dit au légiste « Va, et toi aussi, fais de même. » Vous voyez, c'est toujours la même réponse. « Fais, et va, et fais de même. » Et donc la tradition théologique a interprété cette parabole comme une invitation à changer de regard et à changer de comportement. La question initiale, c'était celle de la frontière. Qui est mon prochain ? La question que pose Jésus est de savoir qui parmi les trois s'est montré le prochain de l'homme blessé. Et le renversement indique qu'il ne s'agit plus de délimiter les frontières du prochain, celui-là est prochain, celui-là ne l'est pas, mais de devenir prochain de l'homme blessé. Comme le souligne le pape François, cela nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et, face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. Prochain n'est donc pas une catégorie qui inclut certains et exclut d'autres, mais une attitude, un agir, agir en prochain. Je rappelle qu'en son temps, Jean-Marie Le Pen disait « L'évangile nous invite à aimer notre prochain et pas notre lointain ». C'est évidemment un contresens total. Ainsi, la parabole nous ouvre un regard qui dépasse les frontières de nos solidarités immédiates pour nous rendre sensibles à tout homme blessé et tenter d'y porter remède. Comme dit le pape François, il s'agit de donner à notre capacité d'aimer une dimension universelle capable de surmonter tous les préjugés, toutes les barrières historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins. Dès lors, on peut s'interroger, quelle est notre perception des migrants et des réfugiés. Nos politiques, qui sont largement conditionnées par nos imaginaires sociaux, n'en sont-elles pas affectées? Voyons-nous en eux des étrangers, des envahisseurs, voire des ennemis, ou bien des frères et sœurs en humanité qui ont un besoin vital d'accueil, de soutien? Alors, contrairement à ce qu'estiment les philosophes Manant et Bragg, la parabole ne saurait se limiter à la sphère strictement individuelle, ni à une pure explication christologique. Le théologien William Spone nous rappelle que la perception, c'est-à-dire les lunettes avec lesquelles nous regardons la réalité, est tout à fait déterminante sur notre manière d'agir. Elle conditionne notre manière de vivre. La parabole nous invite donc à élargir notre regard, à nous rendre sensibles à la réalité de la souffrance, quelle qu'elle soit. Elle est image de l'amitié sociale, de la fraternité sans frontières qui doit orienter nos actions. Et cela est fidèle à toute la doctrine sociale de l'Église. Je pourrais citer Benoît XVI dans Caritas in Veritate, qui nous rappelle que la charité sociale est au fondement de toute vie sociale et politique. L'amour de l'autre est le fondement de la vie sociale. Voyez donc que l'attitude samaritaine, ce n'est pas d'abord un principe éthique ou moral, mais comme dit le pape, un principe élémentaire de la vie sociale, quelque chose qui est conditionnant de toute vie sociale, et dit-il, une caractéristique de l'être humain. C'est très important. Face à l'individualisme, face aux égoïsmes partisans, au provincialisme étriqué, il nous rappelle que nous sommes structurellement des êtres de relation et que l'amitié sociale est essentielle à notre vie sociale, à notre vie en société. Tout groupe humain, toute personne, toute nation qui s'enfermerait sur elle-même serait vouée à dépérir. Alors concernant l'accueil des migrants, vous voyez que Fratelli Tutti en tire quelques conclusions, notamment il nous invite à regarder comment, quelle est la perception que nous avons sur la situation, les raisons de ces migrations, les guerres, les persécutions, les catastrophes, le désir d'une vie meilleure et digne, et aussi sur les obstacles qui nous empêchent de les voir comme des personnes humaines. Le racisme, la xénophobie, la peur, l'écart culturel, l'intérêt propre, le nationalisme étriqué. Et, peut-être encore plus important, l'autre, dans sa différence même, est aussi pour le pape un don. L'échange avec lui est source de fécondité. Dans la rencontre véritable, l'autre me révèle à moi-même. Identité et fraternité vont ensemble, elles ne s'excluent pas. Elles sont en fait à conjuguer ensemble. Alors, Chantal Delsol se demandait si le pape ne va pas trop loin en prônant une morale éthérée, l'abolition des frontières. Non, ce n'est pas le cas. Le pape ne plaide pas pour la suppression des frontières. Il est conscient qu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre, je le cite, le double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens et celui de garantir l'assistance et l'accueil des migrants. Autre aspect très important, le pape insiste sur une double nécessité. Être enraciné dans sa culture pour pouvoir accueillir l'autre. Il faut être enraciné quelque part pour pouvoir accueillir. Mais en même temps, il faut s'ouvrir à l'universel pour découvrir qui nous sommes en vérité. Acquérir notre vraie identité suppose aussi cet accueil de l'autre. Vous voyez que universalité et particularité ne sont pas opposées, mais vont ensemble. L'universalisme du pape, ce n'est pas un universalisme abstrait, ce n'est pas quelque chose d'utopique, d'autoritaire, qui viserait à homogénéiser, non, ou à détruire les particularités, ou mépriser son peuple. Il s'agit bien de s'ouvrir dans notre enracinement propre à l'autre, parce que c'est ça qui va aussi nous enrichir. Voilà, il s'agit bien de s'ouvrir, d'élargir mon cercle, dit-il, afin de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt. La dignité des personnes, la recherche de notre identité vraie ne s'arrête pas aux frontières des États. Donc vous voyez qu'en définitive, face à la situation présente où menace l'enfermement mortifère du soi et des nations, le pape plaide pour la sortie de soi et l'ouverture à l'autre, quelle que soit son origine. L'appel à la fraternité universelle, figuré par le bon samaritain, n'est pas tant une exhortation morale qu'un principe existentiel, un principe existentiel et social à haute valeur politique. On ne saurait donc limiter la parabole du bon samaritain à une simple exigence de charité individuelle et facultative. Elle est fondamentalement un appel à vivre en prochain au plan social et politique. Je vous remercie.
Merci beaucoup Alain Thomasset, vous avez fait 9 minutes, bravo. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Véronique Devise, vous êtes la nouvelle présidente du Secours catholique. On va vous demander de partager avec nous, en quelques minutes, les fruits de votre expérience dans le Calaisis. On sait la difficulté de ce qui s'y passe. Et de nous donner aussi les grands axes de travail du Secours catholique sur la question migratoire.
Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler ce soir à partir de mon expérience. Donc, c'est un savoir expérientiel. Je suis engagée au Secours catholique depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé mon bénévolat par une action collective auprès des familles en situation de précarité et par une présence ponctuelle auprès des personnes exilées à Calais. Cette rencontre avec les personnes migrantes m'a beaucoup marquée. Elle m'a transformée. Comment des hommes, des femmes et des enfants peuvent-ils supporter de telles conditions de vie, un tel parcours? Comment pouvons-nous accepter de les accueillir de cette façon? Je touchais du doigt l'écart vertigineux entre les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité défendues par la République et la réalité. Qu'aurais-je fait à la place des personnes exilées? Certainement la même chose, et j'aurais aimé que des femmes et des hommes aient de la compassion pour moi et mes semblables. J'ai le souvenir de Mariam, une salariée du Secours catholique, avec qui nous arpentions les rues de Calais en voiture. Elle saluait tous les exilés qu'elle croisait, ceux qu'elle connaissait comme ceux qu'elle ne connaissait pas. Elle me disait « c'est important de leur faire signe, de leur montrer qu'ils existent pour quelqu'un. » Exister pour quelqu'un, c'est fondamental quand tout est fait pour les rendre invisibles. Mais aujourd'hui, qui est cet homme jeté par terre, laissé pour mort et invisible pour certains? Au regard de mon engagement au Secours catholique, ce sont les personnes exilées mais aussi les personnes à la rue, ou encore les familles monoparentales. Ce sont elles qui souffrent le plus dans notre société aujourd'hui et qui subissent une mort sociale. Le pape François nous dit « Nous sommes tous responsables du blessé, qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. » Fratelli Tutti, numéro 79. Comme nous le dit la parabole, le bon samaritain nous rappelle l'importance de se laisser toucher par la blessure de cet homme jeté par terre. Ce ne sont pas les compétences intellectuelles qui sont sollicitées, mais bien l'intelligence du cœur. Car cet homme jeté par terre nous rappelle que nous sommes pétris de la même humanité, et lorsque celle-ci est blessée, nous souffrons avec elle d'une telle situation. Cette fraternité humaine nous engage à poser un regard, à risquer une parole. Se laisser toucher, c'est aussi nous renvoyer à nos peurs, à nos préjugés, notre impuissance. S'arrêter près de l'homme blessé, c'est accepter d'emprunter un chemin nouveau, inconnu, à se laisser détourner de notre confort et vie bien réglée, que nous maîtrisons et qui nous sécurise, pour appréhender une autre réalité, et peut-être accepter d'avancer sur un chemin jonché d'incertitudes qui modifiera probablement notre propre avenir. C'est au nom des personnes exilées à Calais que j'ai accepté la présidence de la délégation du Pas-de-Calais entre 2010 et 2016. Je ne pouvais me dérober à l'appel. J'acceptais donc d'apporter ma modeste contribution. Cela m'a obligée à modifier mes habitudes, à accepter d'être moins disponible pour mes proches. Le contexte familial m'a permis de quitter mes activités professionnelles pour m'engager pleinement. Le combat fut difficile, affronter les résistances, les rejets oblige à relire nos parcours, pour mieux les comprendre et s'en saisir pour continuer d'avancer. Les 300 bénévoles engagés auprès des personnes migrantes, donc dans le Pas-de-Calais, me donnaient la légitimité pour agir, me donnaient la force et le courage de poursuivre le combat. La force du Secours catholique, c'est son réseau de bénévoles et de salariés. Nous ne sommes pas seuls, il y a l'action locale, la réflexion et le soutien des services nationaux. C'est indispensable. Seul le combat est inégal. Je pense au référé déposé au Conseil d'État en 2016 pour le respect des droits fondamentaux des personnes exilées présentes dans la jungle de Calais. 8000 personnes et un seul point d'eau, ou encore 4 latrines. Un accueil déshumanisant. Cette action en justice, gagnée par les associations, a permis d'améliorer le quotidien de milliers d'exilés. Je pense encore à l'invitation en 2017 des délégations du Secours catholique à faire se rencontrer les députés et les personnes exilées, afin de sensibiliser nos politiques, nos hommes politiques, à la présence de ces hommes et de ces femmes sur notre territoire. Enfin, l'interpellation des parlementaires en 2019 à s'engager dans une commission d'enquête parlementaire pour contrôler l'action des services publics, en rendre compte et améliorer le sort des personnes migrantes sur le territoire. Le rapport a été rendu la semaine dernière. Il reprend majoritairement les constats faits par les associations depuis des années. Toutes ces actions visent à faire respecter les droits fondamentaux des personnes et à changer le regard posé sur elles. Car vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible, nous dit le pape François dans Fratelli Tutti. Comme le bon samaritain, voir, se rapprocher de la personne blessée, s'arrêter, comprendre et soigner, demande un engagement collectif. L'aubergiste prend le relais dans l'évangile. L'homme roué de coups est laissé pour mort. Le contexte de l'époque le permettait. Aujourd'hui, si les exilés sont à Calais ou à Briançon, c'est parce que le contexte géopolitique du monde produit ces situations d'injustice. S'il y a des familles avec enfants dans l'extrême pauvreté en France, c'est lié à la fragilisation actuelle de la famille, qui provoque tant de misère humaine. Lutter contre les causes de ces injustices nécessite un engagement collectif et politique, avec un grand P. Nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme de petites individualités, nous dit le pape François encore. Le bon samaritain s'est fait proche de l'homme jeté par terre. Il s'est fait le frère de cet homme et nous montre ce qu'est la fraternité universelle. Au Secours catholique, cette fraternité universelle est aussi interrogée. La fraternité avec les personnes exilées est naturelle et évidente. Ce qui l'est moins, c'est celle avec les institutions, le pouvoir public, les élus. Et pourtant, côtoyer certaines formes de pauvreté, telles que celles des exilés, de l'étranger ou des personnes à la rue, nous atteint profondément et l'engagement dans la durée nous radicalise. Nous savons que l'atteinte des droits fondamentaux est une injustice intolérable, car inhérente à la dignité humaine, notre combat est juste vis-à-vis de nos frères. La justice sociale nous oblige à nous engager plus largement, à interpeller les pouvoirs publics et les politiques pour que ces situations cessent. L'action menée auprès des personnes est importante, mais ne peut suffire. Pour nous engager, il nous faut réaliser les blessures avec lesquelles nous vivons, et notamment celles liées au côtoiement des personnes qui vivent une telle misère, car elles nous entraînent vers cette radicalité. Cette radicalité ne sert pas le bien commun. Comment faire pour que nos blessures liées à tant de misère restent fécondes? Comment garder une main tendue et maintenir le dialogue avec ceux qui exercent des responsabilités et qui sont en incapacité d'agir sur les causes quand ils refusent de le faire? Comment recherche-t-on ensemble le bien commun qui est supérieur au bien commun des parties? Cette posture demande un décentrement de chaque partie. Comment accompagner chacune des parties à s'y engager? Autant de questions essentielles qui ne peuvent se résoudre par une injonction. Il faut rejoindre le politique dans sa dimension personnelle. La question n'est pas simple si on la pose à la lumière de la fraternité universelle. Cultiver l'amitié sociale avec les personnes en situation de pauvreté et maintenir le dialogue avec les pouvoirs publics et les élus sont les clés qui nous donnent la force et l'espérance de construire ensemble un monde juste et fraternel. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Véronique De Vise. Je me tourne maintenant vers vous, Véronique Albanel. On l'a dit, vous êtes philosophe, enseignante au Centre Sèvres et présidente de JRS France. On a entendu toutes ces difficultés autour de ces situations. La radicalité n'est pas une solution, vient de nous dire Véronique De Vise. Alors, comment sortir par le haut de ces oppositions radicales ?
Oui, alors dans ce dossier, d'abord bonsoir à tous. Dans ce dossier, nous partons d'un constat, c'est que les critiques adressées aujourd'hui à la fraternité, qu'elles soient chrétiennes ou républicaines, sont radicales, toujours plus radicales, et souvent binaires, parfois cyniques et quelquefois haineuses. Alors bien sûr, il faudrait prendre le temps de hiérarchiser ces attaques, d'ajuster la réponse en fonction des arguments et des situations. Mais il est impossible d'oublier le contexte politique dans lequel nous sommes à quelques mois des élections. La parole de chacun compte et celle des intellectuels davantage encore. Leur diffusion et leur instrumentalisation ne peuvent être ignorées. Dès lors, l'argumentation de fond que propose ce dossier, c'est d'abord de tenter de faire le poids face à la fureur médiatique, et ça ce n'est pas simple, et aussi de sortir des oppositions radicales. La fraternité, vous le savez sans doute, est désormais depuis 2018 un principe à valeur constitutionnelle qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel à propos du délit de solidarité. Pourtant, le débat n'est pas clos, bien au contraire. Il nous faut vivre la fraternité de manière concrète et collective. Avec ses tensions et ses limites aussi. Il nous faut débattre sur la portée de la fraternité, sur nos responsabilités, sur nos limites personnelles, associatives, nationales, européennes. Et sur toutes ces questions, les chrétiens ont de belles choses à dire, je crois que ce dossier le montre vraiment. Alors, que dire, que faire pour ne pas ajouter à la confusion et à la désespérance ambiante. Comment vivre la fraternité concrètement avec l'étranger sans alimenter les théories complotistes ou nourrir les divisions au sein même des rangs catholiques? Peut-être en reconnaissant d'abord que rien n'est simple, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire dire ou croire, que des tensions fortes existent et demandent à être assumées entre l'universel et le particulier, entre la morale et la politique, entre l'ouverture à l'autre et l'enracinement culturel, entre les frontières et les murs. Pour sortir du tout ou rien, et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce de... On est sommé de choisir un camp entre le tout ou rien dans lequel on veut enfermer la question migratoire. Et je voudrais prendre trois exemples pour montrer qu'on peut être à la fois réaliste, ne pas être naïf, ne pas être angélique et pourtant faire le choix de la fraternité. Premier exemple, je crois qu'il faut admettre aujourd'hui que les frontières sont nécessaires pour nous protéger de la mondialisation à outrance, des réseaux de criminalité organisée, de la déstabilisation politique. Bien sûr, je pense à la Biélorussie récemment. Mais dans le même temps, on ne peut que dire, affirmer que les murs qui fleurissent un peu partout en Europe ne sont pas une solution. Nous le savons bien, tous les murs qui existent, que ce soit le mur entre Israël et Palestine ou le mur entre le Mexique et l'Amérique, ne résolvent rien. Deuxième exemple. Il est possible de reconnaître, comme le fait Olivier Abel dans notre dossier, que le temps court de l'urgence et de l'éthique, de la solidarité éthique, n'est pas le même que le temps long de la politique, celui de l'hospitalité durable et soutenable, comme il l'appelle, de l'intégration en somme. L'engagement éthique ne peut ignorer les contraintes de la politique. Nous pouvons dès lors distinguer la morale de la politique, mais sans jamais les séparer, ce que voudrait nous faire dire ou croire les auteurs philosophes catholiques dont on a parlé. Troisième exemple, la question du réalisme et de l'utopie. Vous savez que le populisme s'appuie sur le vrai peuple, qu'il oppose aux médias, aux élites, aux juges. Et pourtant, dans ce dossier, nous essayons de témoigner d'une autre réalité, bien vivante, fraternelle. Et nous pensons possible qu'à la culture du clash qui domine aujourd'hui, il est possible d'opposer et de vivre la culture de la rencontre. Cela fait moins de bruit, mais tellement plus de bien. Il n'est sans doute pas possible de sortir de ces tensions vécues souvent douloureusement par beaucoup. Mais peut-on raisonnablement fermer le débat ? Peut-on nier la possibilité d'une fraternité universelle, la réalité d'une fraternité universelle, sans mettre en danger, et en danger réel, nos fondamentaux chrétiens et républicains ? Et je crois qu'en mettant en danger l'un, on met en danger l'autre. C'est-à-dire concrètement notre rapport à l'Évangile et notre état de droit. Car faire le choix de la fraternité de manière réfléchie et résolue n'est pas une option facile ou sentimentale. C'est une réalité éprouvée et féconde, et il nous semble que c'est la seule manière de résoudre bien des conflits. Peut-être pas tous, mais bien des conflits. Je voudrais ajouter quelque chose d'important, et là aussi c'est au nom de l'expérience que nous vivons à Giresses. Bien accueillir permet d'être crédible, d'être ferme sur nos valeurs et sur nos principes. Plus on accueille bien une personne, plus on est en capacité de dialoguer avec elle, y compris sur la possibilité qu'elle reparte un jour dans son pays. Il reste donc la possibilité d'entrouvrir nos intelligences et nos cœurs en reconnaissant, comme nous y invite le curé de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy avec beaucoup de courage dans ce dossier, que la fraternité avec des étrangers résulte d'un long apprentissage d'attention à l'autre qui commence en sortant de son cercle habituel.
Merci beaucoup Véronique Albanel pour ces réflexions. On va poursuivre par un échange. Hein. On est toujours sur RCF, au Centre Sèvres, au cœur d'un mardi d'éthique publique consacré à l'engagement des chrétiens sur la question migratoire. Nous sommes toujours avec trois invités, le théologien Alain Thomasset, la présidente du Secours catholique Véronique De Vise, et donc la philosophe et présidente du Giresses France, Véronique Albanel. J'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre de concepts qui ont été abordés au cours de ces échanges, mais peut-être d'abord, je crois que c'est vous, Alain Thomasset, qui avez très rapidement abordé cette question, la question de la peur et de la peur du migrant. Qu'est-ce qu'on fait de la peur que ressent une partie de la population, donc peur du migrant, peur du déclassement, et puis aussi peur de la perte d'une certaine identité ou même d'une certaine chrétienté.
Oui, la peur est un sentiment naturel, je dirais. C'est peut-être même le premier qu'on ressent face à ce qui est étrange et ce qui est bizarre, ce qui ne nous est pas habituel. L'étranger fait partie de cela, oui, sans doute. Mais je pense que le pape nous invite aussi, je crois que c'est l'attitude chrétienne, non pas à ignorer la peur, mais à la dépasser. Et je pense que la rencontre dont nous avons parlé tout à l'heure, notamment dans les expériences de rencontre qu'on peut faire quand on accueille un réfugié, quand on accueille un migrant, permet de dépasser ses appréhensions. Voilà. Il y a des expériences magnifiques de gens qui avouent très bien d'ailleurs avoir eu beaucoup, beaucoup de préjugés ou d'appréhensions dans l'accueil et qui, se mettant à accueillir et à rencontrer, change de manière de voir et change d'attitude, vraiment. Il ne faut pas nier la peur, elle est là, il faut la prendre, mais les émotions, elles sont bonnes à entendre. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces émotions ? Est-ce qu'on s'arrête aux émotions ou est-ce qu'on essaie de la travailler, de la réfléchir ? Qu'est-ce qui me fait peur chez l'autre ? Comment je peux dépasser cette attitude de peur ? Je pense que c'est en partie aussi imaginaire. Voilà, et voilà. Comme je disais tout à l'heure, le pape nous invite à changer quelque part notre imaginaire, à penser que l'accueil de l'autre, l'ouverture à l'autre, c'est aussi ce qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes et de nous découvrir. Il y a de la joie à découvrir ça. Voilà. Mais ça suppose d'oser, de risquer. Il y a quelque chose qui n'est pas donné d'avance. Il y a de la gratuité là-dedans. Voilà. Rapidement. Je ne résous pas tout, évidemment.
Véronique Devise, quand vous étiez à Calais, cette peur, est-ce que vous l'avez rencontrée et comment vous faites avec au Secours catholique ?
Effectivement, hein, on peut avoir peur. Et la force du Secours catholique, justement, c'est d'être ensemble. On va à la rencontre du migrant, mais collectivement. On est rarement seul, que ce soit dans les campements, dans la jungle ou même dans les accueils collectifs du Secours catholique. Hein, le fait d'être ensemble nous permet vraiment d'aller à la rencontre en toute sécurité, en toute sérénité. Mais effectivement, ça nous oblige, comme vous le disiez, à un moment donné, à dépasser cette peur inhérente à la nature humaine, certainement, et donc à un moment donné de se dire je peux apporter ma pierre, je peux faire quelque chose. Et ces 300 bénévoles dont je parlais tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont été touchées de la situation des migrants et qui se sont, enfin moi j'étais en admiration devant ces personnes qui faisaient parfois une heure de route, qui partaient à 6h, 7h le matin pour être opérationnelles vers 10, 11h à Calais, vous voyez, et elles avaient finalement une joie de ce rendez-vous chaque semaine ou chaque mois à venir à la rencontre de l'étranger.
Véronique Albanel, la tentation souverainiste, je crois que c'est vous qui utilisez cette expression dans la revue, qu'on entend, même chez certains catholiques en ce moment, cette tentation souverainiste, elle se nourrit de cette peur de la perte et de la question identitaire. Donc comment on fait avec ?
Oui, je crois qu'elle se nourrit de plusieurs choses, de la peur, mais aussi de la désignation d'un ennemi, c'est-à-dire qu'on pense qu'en pointant l'ennemi, en lui imputant toute la responsabilité de nos malheurs, et les malheurs sont grands, personne, enfin, en tout cas, je ne voudrais surtout pas les nier, les malheurs de certains sont immenses. Donc peut-être que la tentation, et dans l'histoire, c'est fréquent, désigner un bouc émissaire, ça permet de se dire que, voilà, c'est sa faute, c'est la faute du migrant, c'est la faute du musulman. Il suffit de se débarrasser, de mettre un Guantanamo, de mettre des murs étanches, et on aura résolu le problème. Je crains, enfin, ce qui me paraît étonnant, c'est ce manque de mémoire. Enfin, hier, le bouc émissaire était le juif, aujourd'hui c'est le musulman. Allons-nous répéter ainsi, en ne prenant pas en compte le réel, c'est que c'est la diversité des croyances, c'est la diversité des personnes. Quel est le danger ? Le danger, c'est de ne pas me rendre proche et de vérifier que cette personne peut me sourire. C'est, comme le dit Camus, de polémiquer, d'oublier la couleur du regard, le sourire, et que la personne est un être humain qui me ressemble. En fait, c'est ça. Le vrai danger, c'est d'en faire un ennemi et de lui refuser toute humanité.
J'ai été frappée, Véronique Devise et Véronique Albanel. Véronique Devise, vous avez parlé d'un accueil déshumanisant à Calais et à nos frontières. Et Véronique Albanel, vous avez dit « bien accueillir permet d'être crédible ». Comment on fait pour bien accueillir à Calais ? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous n'avez sûrement pas la réponse, mais est-ce qu'on peut essayer d'y réfléchir ?
Un accueil humanisant, c'est d'abord de porter un regard sur les personnes qui... Tout est fait pour les rendre invisibles. Donc on pense qu'on a réglé le problème à Calais. Sauf que les exilés sont là depuis 20 ans. Et donc, effectivement, on a eu une période en 2015-2016 où on a été dans une jungle à 8000 exilés. Ça a été particulier lié au contexte. Mais aujourd'hui, il y a toujours 1500 exilés, qu'on le veuille ou non, à Calais. Et donc, quand les regarder, les saluer, comme je disais tout à l'heure par rapport à cette salariée, Mariam, qui disait « c'est important de montrer qu'ils existent », c'est la première pierre peut-être à poser sur cette fraternité. Les regarder, leur parler, donc au Secours catholique de Calais, donc dans cet accueil de jour, on reçoit quotidiennement donc des exilés qui viennent se poser, puisqu'en fait, ils sont sur le littoral, ils n'ont aucun endroit où se poser, ils dorment dehors, hein, donc les plus heureux ont une tente, d'autres ont une couverture, voire un bout de plastique, donc leur quotidien c'est celui-là. quand ils arrivent à Calais. Donc, il y a des distributions alimentaires, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, cette relation personnelle est très importante. Donc, d'aller à la rencontre, de pouvoir leur parler et puis créer un lien, parce que souvent, ils reviennent. Donc, il y a un lien qui se crée. Et je pense que ça, c'est un début de fraternité qui peut humaniser la relation.
Mais là, Véronique Devise, vous nous donnez une réponse qui est une réponse morale, qui nous interpelle chacun, une réponse personnelle. Mais on a vu tout à l'heure avec Alain Thomasset que cette question du bon samaritain, ça pouvait aussi être une question sociale et politique. Oui, donc, qu'est-ce qu'il faut faire à Calais ? Il faut construire beaucoup plus de douches, il faut construire des camps, il faut...
Ah oui, c'est sûr que il y a une action politique à mener et que le Secours catholique mène en parallèle. L'un ne va pas sans l'autre. La fraternité, la justice sociale est intrinsèque à la fraternité. Et donc, à un moment donné, on doit réclamer le minimum, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des personnes. Donc, effectivement, des douches, un repas, une mise à l'abri. C'est le minimum qu'une la cinquième puissance au monde, enfin, puissance économique, puisse faire. Et donc, effectivement, enfin, dans ce qui a été dit, on sent bien ces résistances, ces oppositions à rentrer dans cet accueil. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que on instrumentalise l'étranger en France. Ça représente 0,6% de notre population. Donc, c'est rien. C'est rien. Et on instrumentalise cet étranger pour éviter de parler d'autre chose. En Europe, c'est 0,5% de la population. Donc c'est vraiment, on a la capacité, enfin notre continent et notre pays ont les moyens, et donc le Secours catholique avec d'autres associations, parce que nous ne sommes pas les seuls à Calais, nous agissons, nous essayons d'agir collectivement pour que politiquement les choses changent, mais ça change lentement, trop lentement.
Véronique Almanel, plus que jamais, la fraternité c'est une question politique aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est une question politique, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, ce correctif, Benoît le disait au début, hein, le correctif de peut-être des égoïsmes nationaux, de nos individualismes, mais c'est plus que ça. Je crois que aujourd'hui, c'est peut-être ce qui peut sauver, encore une fois, notre état de droit, c'est-à-dire qu'au fond, on voit bien que ce qui plane, c'est de se dire qu'on peut se passer non seulement du droit européen, qui pour certains côtés, est protecteur. On peut se passer, on peut modifier certaines normes au nom non seulement de la constitutionnalité, mais pourquoi pas aussi modifier la Constitution elle-même. Je crois vraiment que cette question prétendue migratoire, qui encore une fois, je partage l'avis de Véronique Devise, la France n'est pas le pays qui accueille le plus. N'imaginons pas que nous sommes submergés. Enfin, écoutez, c'est purement fantasmatique. On sait très bien que les premiers pays, c'est la Turquie, le Liban, c'est l'Allemagne, les pays en première ligne. Mais la France n'est pas du tout un pays qui a une population migrante excessive. Donc, au fond, c'est plus la peur, c'est aussi la haine de l'autre. Des populations subsahariennes au nom de cette fameuse théorie du grand remplacement qui honnêtement semble contagieuse et contaminer l'ensemble de la population. Moi je l'entends partout, y compris chez des gens raisonnables, et je pense que cette théorie qui est complotiste, qui est prétendument orchestrée, organisée par l'ONU, par l'Europe, sans doute par moi aussi, hein, puisque je suis une remplaciste, puisque j'accueille des réfugiés, elle repose sur rien, si ce n'est des fantasmes. On nous dit, mais sortez dans la rue, prenez le métro et vous verrez. Mais on verra quoi ? Que la France a aussi des Français de couleur ? Et ça, on n'en veut plus ? Que la France a des gens métissés ? On n'en veut plus ? Qu'est-ce que c'est que cette réaction haineuse et raciale ? Parce qu'il faut quand même bien le dire. La théorie du grand remplacement, je rappelle, c'est la conviction que la population française blanche chrétienne est remplacée en une ou deux générations par une population subsaharienne ou maghrébine. Et je rappelle quand même qu'il y a de nombreux Algériens ou descendants d'Algérie qui sont français depuis des générations. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les mettre tous dehors ? J'avoue ne pas comprendre.
Alain Thomasset, qu'est-ce qu'on perd quand on perd l'hospitalité ?
peut-être juste revenir sur la question de la fraternité avant, parce que dans notre devise républicaine, on a bien les trois mots, hein, liberté, égalité, fraternité. On n'a peut-être pas assez réfléchi au fait que la fraternité, c'est ce qui permet le lien entre les deux premières. On veut la liberté, oui, ça on la veut, puis même pour moi, je veux ma liberté surtout. Ah oui, mais on veut aussi l'égalité, ça c'est aussi très français. Mais on ne réalise pas que si on veut les deux en même temps, il faut d'abord la fraternité, c'est ce qui est en fait le lien premier social qui permet à un groupe de se constituer comme tel, d'ériger des règles pour lui-même, de s'assurer une solidarité qui permet précisément la vie commune. Voilà. Alors l'hospitalité, si on ne la vit pas, bah précisément, elle nous empêche de faire cette découverte que dont j'ai développée tout à l'heure à la suite du pape François, c'est-à-dire c'est quand j'accueille l'autre. Alors l'autre, c'est pas seulement l'étranger, c'est mon voisin qui m'embête, c'est celui qui pense pas comme moi politiquement, c'est celui qui est pas de la même religion. Tout ça, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'hospitalité. Si je ne fais pas cette attitude d'accueil de l'autre dans sa diversité, alors on n'a plus de débat et on n'a plus de démocratie, je dirais. C'est le principe même de la démocratie, c'est le débat contradictoire dans l'accueil de la pensée de l'autre, que je peux contester, que je peux discuter, mais le débat et donc la rencontre. Donc si je me prive de la rencontre, je me prive de la possibilité d'avancer ensemble avec d'autres et, comme je disais tout à l'heure, aussi de se découvrir soi-même dans sa propre identité. Il n'y a pas d'identité vraie sans ouverture à l'autre. Et c'est vrai que l'expérience de l'hospitalité fait que il y a un échange, en fait. L'hôte que j'accueille chez moi, en fait, devient aussi quelqu'un dont je reçois par sa différence, par ce qu'il va m'apporter de sa culture, de son intelligence, de sa vision du monde différente, et ça va élargir mes, ma manière de faire. On perd beaucoup à ne pas accueillir.
Véronique Albanel, vous avez distingué le temps de l'urgence, ce que sont en train de vivre en ce moment à Calais et un peu partout, enfin, dans des camps de réfugiés, des personnes arrivées chez nous. Donc ça, c'est le temps de l'urgence. Et puis le temps long de la politique et peut-être de la conversion. Mais là, en même temps, nous sommes aussi dans une forme d'urgence politique puisque nous sommes dans une campagne présidentielle. Alors comment est-ce qu'on fait pour convaincre de l'urgence de l'existence de ces personnes?
Je n'ai pas vraiment de solution magique. Je crois que chacun qui peut témoigner que la rencontre l'a déplacée, l'a convertie, l'a humanisée, l'a fait grandir, mais y compris dans la joie que cela procure. Moi, je crois vraiment que le premier moteur, ce n'est pas la haine, c'est pas la peur, c'est le premier moteur, c'est la joie. C'est la joie d'agir, la joie de voir que même si c'est petit, si c'est une goutte d'eau, eh bien, ça fait bouger, ça change les choses, ça change les lignes. Et je crois que tout ça, on peut en témoigner. Je serais tentée de dire, venez, voyez, venez à JRS et voyez, ça marche. Nous sommes heureux de ces rencontres, nous sommes heureux et nous ne voyons que des gens, enfin, désireux de s'intégrer. On fabrique de fausses images. Les personnes ont envie d'apprendre le français, ils ont envie de s'intégrer, de connaître la culture, de parler notre langue, pour peu qu'on ne les mette pas de côté, pour peu qu'on les regarde avec simplement un peu d'humanité. Voilà. Mais nous faisons le pari qu'en leur donnant un minimum, et croyez-moi, c'est un minimum d'humanité, d'abord on en reçoit au centuple, vraiment c'est ça, et qu'en plus, la vie ensemble est possible, même si ce sont des musulmans, même si ce ne sont pas des personnes qui nous ressemblent. J'allais dire, c'est une chance.
Véronique Devis, je crois que, à sa façon, le Secours catholique s'engage dans la campagne présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous prenez part, vous essayez de faire entendre vos convictions et de faire reculer ce fantasme du rejet de l'étranger qui est quand même très présent dans cette campagne?
Oui, tout à fait. Donc, le Secours catholique s'engage, bien sûr, et on va travailler donc avec les groupes en local. Je vais travailler aussi au niveau national, enfin pour les présidentielles particulièrement, à la rencontre des candidats avec justement des personnes en situation de pauvreté. Alors ça peut être l'exilé, mais ça peut être aussi une maman avec ses enfants ou quelqu'un qui cherche du travail, pour justement pouvoir apporter autre chose, que les candidats puissent rencontrer les personnes qui sont en situation de galère dans notre pays, quoi. Et de dire, regardons autrement ces personnes qui sont pleines de potentialités, de capacités, et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de partager les responsabilités et de pouvoir agir dans notre société. Et effectivement, on ne construit pas des murs, mais on essaye de construire des ponts pour éviter ces fractures dans notre société qui peuvent s'aggraver. Alors que il faut travailler à cette unité, quoi, au sein de notre nation, il me semble.
Voilà. Alain Thomasset, on a entendu la joie évoquée par Véronique Albanel, la joie dans la rencontre. On a aussi entendu le formidable engagement des bénévoles du Secours catholique pour favoriser cette rencontre. Et en même temps, si on est un tant soit peu sur les réseaux sociaux, si on écoute certains médias, on a un déferlement de haine et de cynisme. Alors comment on fait pour faire que l'attention se porte sur la joie et l'engagement généreux ?
Ah, j'ai pas la solution toute faite, hein. Mais je crois aussi que on peut diffuser la joie par le témoignage, ça a été dit, de personnes qui précisément ont fait cette expérience d'ouverture et de découverte étonnée que finalement ça vaut vraiment la peine et que c'est heureux, voilà, et que les gens se transforment eux-mêmes dans cette rencontre. Alors bon, de même que en écoutant les pauvres, sans doute on peut changer notre manière de voir, qu'en écoutant les victimes aujourd'hui, victimes des abus, victimes, on a aussi changé notre manière de penser sans doute, et que ça nous a aidés. Je pense qu'écouter le témoignage des gens qui font cet accueil heureux des personnes étrangères, des personnes différentes, eh bien, ça peut-être aussi nous y inviter à changer notre manière de voir.
On approche de la fin de la première partie de cette rencontre, et je vais peut-être demander à François Hevé, qui est le directeur de la revue Études, hein, même si cette rencontre a été préparée par la revue Projet, de conclure et de synthétiser ce qui a été dit.
Alors, je ne sais pas s'il est possible en quelques minutes de synthétiser la richesse des propos, de même qu'il serait difficile de synthétiser la richesse de l'excellent dossier de la revue Projet sur cette question tout à fait essentielle dans nos sociétés. Je pense que c'est heureux dans une sorte de pré-campagne électorale qui part dans les directions que l'on sait, de se rapporter, de revenir aux questions les plus essentielles de notre vie commune. Et de prendre conscience aussi à quel point la tradition chrétienne peut apporter pas seulement un supplément d'âme à notre vie sociale, mais vraiment des éléments qui touchent à ses fondamentaux. Et dans ces fondamentaux, il y a effectivement l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'autre, la transformation du regard, comme on l'a dit à l'instant, quelque chose qui n'est pas simplement, encore une fois, un supplément ou une annexe ou une partie secondaire de la vie sociale, mais quelque chose d'essentiel. Et je crois que les propos qui ont été tenus montrent bien à quel point la dimension relationnelle de l'existence est constitutive individuellement et collectivement de notre identité. On parle beaucoup d'identité française aujourd'hui, mais il n'y aura pas de constitution réelle de l'identité française sans précisément cette relation à l'étranger. Donc il y a là quelque chose qui est tout à fait essentiel. Ça peut paraître, encore une fois, un dossier spécifique, la question des migrations, mais je crois que c'est vraiment une question tout à fait fondamentale et bien plus fondamentale que certaines questions débattues dans d'autres contextes. Ce que je voudrais aussi souligner en termes de conclusion, c'est l'importance de ce savoir expérientiel, ou de cette intelligence du cœur, et de ce couplage entre la réflexion un peu distanciée, qui est le travail intellectuel, et la rencontre effective, concrète des personnes. Parce qu'on voit bien le défaut, l'un des défauts de propos philosophiques qui ont été critiqués, on les trouvera aussi dans d'autres domaines, c'est une perspective précisément abstraite, c'est-à-dire détachée des situations. Or, ce qui change complètement, on l'a dit et redit ce soir, et c'est dit aussi très concrètement dans le numéro, c'est ce qui change, c'est précisément la rencontre des personnes. On le sait, et Alain l'a rappelé à l'instant, dans les affaires d'abus, on le sait dans la place des plus pauvres dans la société, et on le sait aussi dans le rapport à l'étranger. Donc la rencontre, je dirais la rencontre des visages, la rencontre des personnes, très concrètement, change vraiment les choses. Et il y a quelque chose là de profondément évangélique, et une résonance évangélique qui est, je crois, susceptible aussi de changer notre manière de vivre ensemble, c'est-à-dire d'avoir un impact politique à l'encontre de toute opposition entre morale ou spiritualité et politique. Il y a vraiment, dans l'Évangile, il faut le dire et le redire, un chemin qui nous permet de refonder vraiment le politique, et je crois que nous en avons profondément besoin.
Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce mardi d'éthique publique consacré à la fraternité chrétienne face à la question migratoire. J'aimerais remercier les principaux intervenants, le théologien Alain Thomasset, la présidente du Secours catholique Véronique Devise, la philosophe et présidente de JRS France Véronique Albanel, et puis merci aussi bien sûr à François Hevé pour la conclusion, et puis à Benoît Guillou qui a introduit cette rencontre, qui l'a préparée, et pour la prolonger, eh bien vous pouvez lire la revue Projet, le dernier numéro de décembre 2021. Voilà, merci à tous.
Alors c'est pas fini, hein. Maintenant je change de casquette.
Moi j'ai fini le job.
Voilà. Merci Stéphanie. Nous passons à la partie débat. Je crois que un micro doit circuler dans l'assistance. Vous levez la main pour demander la parole. La coutume habituellement est de prendre deux ou trois questions, de grouper les questions. Donc nous allons commencer à... Voilà, il y a déjà une main qui se lève aux deux tiers de la salle.
Oui, merci beaucoup. J'ai vraiment énormément consonné à beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment quand Véronique Devise parle de la radicalité qui n'aide pas à la recherche du bien commun. Je trouve que c'est quelque chose de très très fort. Puisqu'en même temps. Bon, mais ma question porte sur le titre même, rejet de l'étranger et valeurs chrétiennes. La difficulté en usant du terme de fraternité, mais je me trompe pas, dans l'espace public, dans le monde de la raison publique qui est le mien. Je travaille dans un think tank et je suis un peu chargé de défendre des idées qui sont plutôt celles de l'ouverture et de l'organisation d'autres politiques migratoires françaises et européennes, j'aurais du mal à user ce terme de fraternité, parce que justement sa connotation est très directement chrétienne, de même que la charité a une connotation chrétienne et qu'on est plus facilement compris quand on parle de solidarité. Et ce que je soumets à la table ronde, c'est qu'il m'est plus facile de défendre ces idées qui relativisent l'absolu de la nation et qui font de la frontière quelque chose qui peut être ouvert et pas systématiquement fermé, en usant plutôt de termes de réciprocité et de dignité, les deux allant ensemble. Pourquoi la réciprocité m'aide, moi, dans ma parole? C'est parce qu'elle implique une différence. On n'est pas les mêmes. Dans la fraternité, il peut être compris qu'on est la même famille. Ça ne passe pas facilement. En revanche, faire comprendre que le sort de l'immigré qui est à Calais, c'est un sort qui pourrait être le mien, ce qu'a dit Véronique Devise, et que par conséquent, je suis amené à me mettre à la place de l'autre, et que si je ne le fais pas, ma dignité est atteinte. C'est quelque chose qui à la fois consonne davantage avec les valeurs de l'Europe, qui sont sur la reconnaissance mutuelle, sur l'égalité en dignité, sur la non-discrimination. Ça, c'est le langage de la raison publique. Mais au fond, ça aboutit presque au même. Et en utilisant ce terme de réciprocité, c'est plus facile de dire que nous avons aussi besoin des migrants. Il n'y a qu'à regarder dans nos hôpitaux. qui est-ce qui nous sert. Que c'est plus facile de dire, au fond, on pourrait développer des couloirs humanitaires, parce que de cette façon-là, on peut aussi aider les pays tiers qui accueillent le plus grand nombre des réfugiés. Il me semble, moi, j'ai plus d'aisance à développer la dialectique de la réciprocité-dignité, et même on peut parler de l'immigration légale avec la réciprocité-dignité, qu'en sautant tout de suite à la fraternité. J'ai plus de mal à me faire comprendre, parce que la fraternité, je me répète, implique une forme d'assimilation. On est de la même famille. Ça va dans le public catholique, d'accord. Mais si je sors de ma sphère, c'est plus difficile.
Merci. Alors, prenons une deuxième question. Je n'ai pas encore vu de main. Voilà, une main qui se lève. Ah, il y en avait dans le fond. Et après ça, il y en aura devant.
D'un point de vue beaucoup plus concret, aujourd'hui, dans la région de Calais, à partir du moment où le Royaume-Uni, pour des raisons qui lui appartiennent, ferme sa frontière et que la plupart des migrants ne souhaitent pas rester en France mais passer en Angleterre, quelles sont les pistes de résolution possibles? Est-ce que c'est dans le fait de mieux accueillir que peut-être ils se diront finalement autant rester en France, ou autrement on est dans une situation qui peut sembler bloquée?
Merci. Alors, il y avait une main qui s'était levée devant. Voilà. Relevez la main, s'il vous plaît, que le porte-micro vous voit bien. Il arrive sur votre gauche.
Bonsoir. Vous parlez chaque fois qu'il faut changer de regard. Je le crois profondément, mais comment on fait ? Alors vous avez dit qu'il fallait mettre, je crois aussi que c'est vrai, au centre les paroles des victimes. Il y a eu un rapport Sauvé qui a mis au centre la parole des victimes. Eh bien, ça ne change pas le regard de tout le monde. Parce qu'assez vite, on se dit qu'est-ce qu'on fait, et puis on laisse de côté la parole des victimes pour retrouver nos vieilles habitudes et nos vieilles querelles qui n'avancent rien du tout. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de changer de regard.
Merci. Alors, nous avons des questions assez différentes. Peut-être des questions, peut-être commencer par une question la plus pratique. Comment on fait à Calais? Alors, je ne sais pas si Véronique Devis essaye de répondre.
Comment on fait? Je ne sais pas si je vais pouvoir donner des solutions, mais peut-être des éléments de compréhension. Quand vous avez posé donc la question à Calais, les exilés qui veulent passer en Angleterre et la situation est bloquée, hein, c'était ça. En fait, nous avons fait un rapport en 2015-2016, justement, à partir de la parole des exilés, où on a interviewé, en fait, je crois que c'était une cinquantaine d'exilés, mais longuement, pour comprendre, en fait, leur projet migratoire. Et on s'est rendu compte qu'à trois quarts des personnes interrogées arrivaient à Calais, non pas pour passer en... Enfin, l'idée, c'était pas de passer en Angleterre quand ils ont quitté leur pays, mais ils sont passés de pays en pays sans que personne ne les accueille. Donc la Grèce, l'Italie, enfin voilà, ils ont fait toute l'Europe. Ils arrivent en France, Porte de la Chapelle ou ailleurs. Et puis finalement, ben, y a pas d'issue et donc ils arrivent. Les copains leur disent, ben, essaie de passer à Calais. Donc ça, c'est la réalité. Il y a 25% des personnes qui effectivement rejoignent une diaspora ou voilà, avec un vrai projet d'aller en Angleterre. Donc ça, c'est un élément de compréhension qui nous a surpris, nous, à l'époque, parce qu'on était persuadés effectivement que c'était leur projet migratoire, ce n'est pas le cas. Donc après, effectivement, la situation est particulièrement bloquée aujourd'hui. J'aurais tendance à dire, on a parlé des accords du Touquet, enfin, on a bien l'impression que de ce côté-là, c'est bien bloqué aussi. Mais ce qui a peut-être été dit un tout petit peu tout à l'heure, c'est effectivement, peut-être de permettre une migration légale. Donc, à un moment donné, rapprochement de famille, de conjoints, ou les enfants vis-à-vis des parents ou de cousins qui seraient déjà en Angleterre, choses comme ça, qui permettent vraiment de sécuriser donc le passage, d'éviter de faire prospérer les passages. Ça pourrait être une solution. Maintenant, une deuxième, il y en a certainement d'autres, hein, c'est aussi que la France prenne aussi sa part et qu'elle accueille aussi dignement, puisque s'ils ne restent pas en France, c'est parce qu'ils ne sont pas accueillis du tout. Je suis encore à la Calais il y a peut-être deux mois. J'ai rencontré des mineurs le long du littoral. On trouve des demandeurs d'asile. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc, ça ne donne pas forcément vraiment envie de rester, quoi, chez nous. Donc, les solutions sont partagées de part et d'autre, hein, mais que chacun arrive à assumer sa responsabilité vis-à-vis des personnes. Voilà.
Alors, peut-être, j'aurais envie de la question sur le changement de regard, la poser au moraliste spirituel.
Je crois quand même que la rencontre avec les victimes, la rencontre avec les personnes en pauvreté ont changé des choses et changé des regards. Peut-être pas de tous, mais peut-être que tous n'ont pas fait cette expérience non plus. De toute façon, quand on dit changer de regard, ça suppose une conversion. On est d'accord. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, que le pape parle des processus et pas, ça se fait pas comme ça, une conversion. Changer de regard, c'est toute une vie, peut-être. C'est parce que changer le regard, ça va être changer aussi son logiciel intérieur, j'allais dire, sa manière de voir le réel, et donc on va voir des choses qu'on ne voyait pas avant, et donc on va réagir différemment. Mais ça, c'est, je dirais, c'est toute une vie de fréquentation de l'Évangile et de fréquentation des personnes en difficulté qui aide à ça. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais quand même, ça bouge. Quand on fait cette expérience, quand on ose entrer dans cette expérience, je pense que beaucoup de gens pourraient le dire ici, sans doute dans la salle aussi, voilà, quelque chose en nous se transforme peu à peu. Et puis, je pense que c'est vraiment ce à quoi nous invite le Christ. Voilà, changer de regard, voir les choses comme lui les voit, c'est-à-dire donner la priorité aux petits, voir celui qui est en souffrance, ne pas oublier celui qui risque d'être justement mis à l'écart. Si je peux répondre aussi à Jérôme...
Oui, justement, je gardais le meilleur pour la fin.
La fraternité et la réciprocité, oui, tu n'as pas dit solidarité, tu aurais pu, oui, c'est... Voilà. Parce qu'il y a un danger aussi dans réciprocité, alors je vais reprendre à l'envers, il y a un danger dans réciprocité, c'est qu'on risque le donnant-donnant. C'est-à-dire qu'en fait, on risque de retomber dans une morale utilitariste où finalement, c'est seulement l'intérêt que j'ai, moi, d'accueillir qui va conditionner l'accueil. Ok, politiquement, ça peut s'entendre. Mais je pense que la fraternité dit plus. Elle dit ce qui est au fond du fait que j'ose accueillir ou que j'ose aller vers l'autre. Voilà. La fraternité, alors évidemment, elle suppose qu'entre moi et l'autre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Un appel à une transcendance. Est-ce que cet appel à une transcendance est inaudible dans le discours public? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, c'est ça le fond des affaires. Voilà. Si on parle, alors on peut le dire aussi ça pour la solidarité. On peut dire la solidarité, ça nous dépasse aussi tous, d'une certaine façon, parce que ça nous lie les uns les autres par quelque chose qui est plus grand que chacun. C'est vrai. Je crois que la fraternité dit ça. Et je ne pense pas que la fraternité égalise, parce que dans une famille, ben, y a des grands, il y a des petits, il y a les parents, il y a les enfants. Enfin, c'est pas forcément l'égalitarisme, hein, au contraire. Il y a des différences aussi entre frères et sœurs. Voilà. Donc je dirais, voilà, la fraternité renvoie certainement, oui, à quelque chose qui nous dépasse tous, mais de cette réalité dont nous vivons tous. Que je risque un peu, bon, je peux comprendre qu'on peut avoir une stratégie dans le discours public de traduire notre conviction chrétienne dans un discours qui soit audible, tout à fait, et ça c'est notre boulot à tous de le faire. Mais on peut aussi parfois, y compris dans le débat public, rappeler que si la réciprocité c'est simplement du donnant-donnant, ça ne va pas marcher. Voilà. Parce qu'on va retomber sur une politique de l'intérêt bien compris et que ça a beaucoup de limites. Ça ne suffira pas, me semble-t-il.
Alors Benoît a demandé la parole, mais ensuite Véronique la prendra, Véronique Albanel. Benoît d'abord.
Oui, je voudrais peut-être insister sur cette idée de processus. Un processus, ça demande du temps,
mais un processus, ça demande des temps de formation. GRS, comme le Secours catholique, prennent des temps de formation, mais aussi des temps de relecture. Parce qu'il s'agit de tenir, et ça ne va pas de soi. Donc fondamentalement, il y a quelque chose qui s'opère dans la rencontre, mais je ne suis pas irénique. Il y a des échecs, il ne faut pas déifier le pauvre. Après, je voudrais aussi insister sur la dimension quand même intellectuelle. On voit que les trois auteurs que nous citons, c'est souvent tout ou rien. Hein. On oppose, on ferme, on ouvre, le débat est fermé, enfin, etc. Et je pense que là aussi, il y a un enjeu herméneutique. Parce que pourquoi avons-nous choisi Pierre Manant, Rémi Braque et Chantal Delsol? Parce que vous le savez, le pape François s'appuie dans une large mesure sur la parabole du bon samaritain. Mais ce qui est intéressant, c'est que trois philosophes s'appuient sur leur propre interprétation du bon samaritain pour développer d'autres visions du politique. Donc là, je pense que voilà, il faut prendre du temps de prière, il faut prendre des temps pour se former, mais je pense qu'il faut, oui, il faut travailler parce que aujourd'hui, on rentre dans un contexte où les positions, on voit bien, il y a de plus en plus de divisions, de fragmentation au niveau de la société. Et donc, enfin, franchement, là, dans le dossier, on a voulu prendre au sérieux les arguments avancés par ces auteurs et voir un peu comment on peut confronter la réalité, mais aussi cette approche théologique.
Véronique, j'aimerais t'entendre aussi sur cette question fraternité politique.
Oui, je ne suis pas convaincue que la fraternité ne soit que chrétienne. Je ne pense pas. Elle est d'abord chrétienne, oui, dans l'histoire, tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, elle est, à mon avis, tout à fait républicaine. Je pense que c'est un mot qui a du sens. D'abord, encore une fois, parce que c'est un principe à valeur constitutionnelle. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel soit supprimé, peut-être. Et je pense à un autre auteur que j'ai déjà cité, que j'aime beaucoup, Albert Camus. Il n'est pas chrétien, et pourtant il se réfère à la fraternité des hommes. Donc je crois, encore une fois, on dit bien frère d'armes, frère de sang, voilà. Eh bien, fraternité universelle, je pense que c'est pas un rêve réservé aux chrétiens. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un rêve. Je crois que c'est, voilà, une réalité qu'on porte petit à petit, et à laquelle on aspire. On n'y arrivera sans doute pas de son vivant, mais on aura fait ce qu'on a pu.
Alors, reprenons quelques questions. Voilà, il y a une main qui vient de se lever à côté du micro. Très bien. Et puis ensuite, devant. Ensuite, ici.
Merci de tout ce qui a été dit. Je rejoins un peu le monsieur, là, dans le sens où ça rejoint pas mal de choses que j'ai senties. Alors, une première petite chose que je voulais vous dire, quand vous parlez du bon samaritain, c'est le Christ, mais nous, ne sommes-nous pas, nous les chrétiens, invités à suivre le Christ? Petite parenthèse. Je me permets de partager mon expérience, et puis après une question. Parce que c'était à Nantes, et moi je ne suis plus à Nantes, donc je peux me permettre.
Parlez bien dans le micro pour vous entendre.
Donc pendant 15 ans, je suis allée toutes les semaines dans une association d'accueil des migrants. Mais c'était tous les migrants. Hein, pas seul, on disait demandeurs d'asile parce que c'était plus officiel. Mais en fait, on accueillait tous les migrants. Et en fait, cet engagement, progressivement, comme vous l'avez un peu dit, m'a appelée à m'engager dans différents champs. C'est-à-dire que ces migrants, on les recevait. Au début, on en avait 70, 60. Et puis, juste avant le premier confinement, on en avait 250. Progressivement, à les rencontrer dans la rue, donc à accepter qu'ils vous disent coucou de loin, d'être assis à côté d'eux dans le tram, enfin, et à témoigner d'eux dans son milieu, parce que c'était à l'époque, quand j'ai commencé, c'était Le Pen, les idées de Le Pen, et puis il y avait eu dans le groupe œcuménique une réflexion sur l'exilé, l'étranger, etc. Donc je m'étais sentie poussée par tout ça. Et donc après aussi le dialogue interreligieux, parce que c'est quand même aussi une dimension qu'on rencontre. On a l'occasion, soit ils font le ramadan, soit ils en parlent un peu. En principe, on ne doit pas en parler, mais on peut quand même avoir quelques petits échanges. Et puis, évidemment, au point de vue politique, faire quelques manifestations pour réclamer différentes choses. Enfin, bref, ce qui m'avait frappé, c'était ces engagements un peu successifs qu'on est obligé de prendre parce que, comme vous avez dit, on se lie un peu d'amitié. Enfin, ou tout au moins avec eux, voilà, progressivement.
Mais, et votre question,
alors,
oui.
Alors ma question, elle tourne, il y a quand même des moments de tension, c'est-à-dire que par moments on se dit, bon ben d'accord, on les accueille, et puis par moments on est devant l'afflux, on est un petit peu révolté, il se passe des choses, il ne faut pas non plus être naïf, hein, ils n'étaient pas tous des anges, hein. Enfin nous non plus, vous me direz. Hein. Mais enfin bref, c'est quand même des combats, des prises de position qui demandent quand même... Moi, ça, quelquefois, je me sentais un peu révoltée devant tout ça. Voilà. Et puis, j'ai bien aimé quand vous avez...
Et votre question, s'il vous plaît.
Voilà, donc c'est ça, sur la tension réelle qui nous anime, malgré tout, si on veut être réaliste. Et j'aime bien aussi le principe de responsabilité que vous avez un peu développé, je crois, Madame Panel. Peut-être pouvez-vous y revenir. On trouve ça chez Anna Arendt ou chez Jasper.
Merci. Alors, il y avait une autre question. Merci de ne pas être trop long dans vos questions, parce que le temps file vite.
Merci. Je vais essayer d'être rapide. Alors, deux points que je voudrais aborder. J'ai été très sensible à la question du changement de regard qui ensuite peut amener à l'action. Je pense que le changement de regard, il vient effectivement de l'expérience qu'on peut faire, du témoignage que l'on reçoit. Et vous n'avez pas parlé du rôle des médias, qui ont un rôle évidemment essentiel à jouer dans la société et pour le politique. On a la chance d'avoir trois médias ici, RCF, la revue Études, la revue Projet. Et les médias chrétiens ont un rôle vraiment à jouer avec une proposition de valeur, d'information qui est différente, puisque il y a derrière une vraie vision de la société et je pense que voilà, les médias peuvent vraiment prendre ce rôle. Et les politiques, alors on n'a pas de politique ce soir ici, mais ma question c'est quelle est la politique migratoire de la France actuellement et depuis des années? J'ai l'impression que en fait, il n'y a pas de politique migratoire, c'est un vide. Et que cette politique migratoire, elle est remise dans les mains des associations qui veulent bien s'occuper grâce à des bénévoles, des migrants, les accueillir, les former à la langue française, de les insérer dans la société. Mais ça laisse la porte ouverte, du coup, à des partis politiques beaucoup plus extrêmes et radicaux, puisque les partis plus modérés, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de politique migratoire. Alors, est-ce qu'il y en a une depuis des années et quelle est-elle? Merci.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a une troisième question brève? Devant.
Coup, une question très brève. Donc, les médias, les politiques, également l'Église. Comment faire pour que dans l'Église, il y ait plus de ponts, finalement, entre ceux qui sont très sensibles à toutes ces questions d'accueil des migrants et ceux qui sont beaucoup plus réservés, voire complètement opposés à cette nécessité?
Voilà, alors les questions sont assez larges et peuvent être abordées par toutes et tous. Alors, qui commence avec quelle question? Je laisse grande liberté. Alain?
Répondre à madame d'abord. Merci, oui, suivre le Christ, bien sûr. Hein, le bon samaritain, c'est le Christ, mais nous sommes invités à faire comme lui. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux interprétations de la parabole qui fait du Christ le bon samaritain, mais le bon samaritain, nous sommes appelés à le devenir. Voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, ça me permet de préciser le changement de regard. Un théologien que j'aime beaucoup, là, William Spohn, dit, à la suite d'ailleurs d'une analyse du bon samaritain, il dit la compassion, c'est-à-dire regarder, se laisser saisir par la souffrance, ça c'est le nerf optique de la vision chrétienne. J'aime bien cette expression. Le nerf optique, c'est-à-dire c'est voir la réalité à travers, vraiment la regarder, ne pas fuir cette réalité, se laisser affecter par cette réalité et du coup agir. C'est ça la vraie compassion, elle va jusqu'à l'action. Du coup là, de fait, regarder comme le Christ, on pourrait dire, regarde. Bon, ça c'est... Alors après, peut-être juste une toute petite réponse sur dans l'Église, comment on peut faire je crois beaucoup aux choses concrètes dans les paroisses aussi. les tables ouvertes, par exemple, ou l'hiver solidaire à Paris, ou même dans la banlieue parisienne, des gens se mettent à accueillir des migrants dans la paroisse. Bon, peut-être ils sont pas forcément convaincus au départ, mais ça bouge quelque chose quand ils font la rencontre. Ça, je suis sûr. Ou bien quand ils passent, ils ont l'occasion de partager une table ouverte après la messe avec des gens qui, bon, et alors il y a les mendiants, il y a les pauvres de la rue, mais il peut y avoir des migrants aussi. Et du coup, les choses se rencontrent. Voilà. À Saint-Denis, moi j'ai eu l'expérience de ça. Voilà, la fête des voisins, c'était extraordinaire parce que dans la rue, voilà, on avait mis les tables. Et puis tous les voisins étaient là, il y avait la terre entière. Un jour, j'étais très frappé par ça, c'était malheureusement le jour du Ramadan, donc on s'est dit mince, on a raté un truc là. Eh bien, ma voisine musulmane a fabriqué toute l'après-midi un plat pour nous, elle nous l'a amené en disant c'est pour partager, et puis elle s'est assise avec nous, et on a parlé, elle n'a pas mangé avec nous, mais elle était là. C'est une belle leçon pour moi, de fraternité.
Oui. C'est vrai que la fête des voisins dans le 6e arrondissement, c'est moins efficace. Alors, oui, Véronique, pardon.
Donc moi aussi, je voudrais dire deux mots par rapport à ce que vous avez dit, madame. Enfin, je retiens, peut-être pas forcément la question, mais vous avez dit on se lie d'amitié avec les personnes exilées. Et puis voilà, il y en a 60, et puis quelques mois plus tard, il y en a 250. Oui, ça fait écho à ce que nous vivons au Secours catholique. Dans les accueils, on a 3500 points d'accueil en France, il n'y en a pas 3500 pour les exilés, mais c'est une réalité, quoi. 50% des personnes que nous accueillons au Secours catholique sont étrangères. Et donc, ce qui montre bien que la pauvreté en France, c'est bien, l'étranger, les deux sont liés. Et donc, c'est une vraie question, et ça rejoint ce que vous disiez par rapport aux politiques. Effectivement, il n'y a pas de, on n'apporte absolument pas de solution, enfin, d'une politique d'envergure pour bouger là-dessus. Je donnerai juste un autre exemple qui dit un peu l'ineptie de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai rencontré une famille à Marseille. J'étais allée à Marseille pour le Secours catholique, et je rencontre une dame en fait avec deux enfants. Ça faisait des années qu'elle vivait en France. Ses enfants allaient à l'école. Elle était pharmacienne de formation au Maroc, hein, elle est du Maroc, je crois. Et elle travaillait pour 2 euros de l'heure dans l'économie informelle, et son mari aussi. Ben, c'est dramatique. C'est enfin, humainement, enfin, économiquement, financièrement, enfin, à tous les niveaux, c'est dramatique, tout ça parce qu'on ne prend pas de décision, quoi, politique, à un moment donné, de dire ces personnes ont fait le choix de la France, accueillons-les, quoi. Hein, effectivement, les associations ont plus ce discours-là que le politique. Puis dernier point peut-être sur ce que vous disiez par rapport à l'Église. Effectivement, on retrouve la même chose au Secours catholique, hein, au service d'Église, ou dans notre réseau, 60 000 bénévoles. Vous imaginez, on a toutes les tendances aussi. Et nous avons des bénévoles qui œuvrent auprès des migrants et d'autres qui ne le feront pas. Et il faut pas non plus idéaliser, hein, Secours catholique. Moi, je le dis parce que c'est très clair à Calais, je connais bien. On avait acheté un local suffisamment grand pour l'accueil des exilés avec une partie accueil pour les Calaisiens, les pauvres Calaisiens, les Calaisiens qui sont en situation de pauvreté. Et donc, on avait même mis une claustra parce qu'on savait que ça posait un peu problème. Aujourd'hui, quand j'y suis retournée, j'étais très étonnée. La permanence pour les Calaisiens avait été déplacée ailleurs. Et donc, dans le lieu d'accueil à Calais, nous n'avons que des exilés. Et donc, c'est une vraie question. Elle n'est pas simple. Hein. Elle n'est vraiment pas simple, cette question. Et comme on l'a dit, comme ça a été dit à plusieurs reprises, je crois qu'il n'y a que vraiment la rencontre. Hein. Alors, ça ne fait pas de bruit, c'est pas assez lent. Mais en attendant, c'est ça qui permet de se transformer, enfin, de se convertir. Oui.
Alors, un petit mot de Véronique Albanès sur la politique migratoire. Ensuite, sur les médias, je laisserai la parole à Stéphanie.
Oui, je voulais juste répondre. Avons-nous une politique migratoire en France? Je crois qu'on n'en a pas vraiment et qu'il y a deux mots qui la résument. Pas d'appel d'air, pas de point de fixation. Voilà, c'est ça notre politique migratoire. Ceci étant dit, ce n'est pas simple non plus. Moi, je n'aime pas les choses voilà, trop clivantes. Normalement, la politique, elle devrait être d'abord européenne et elle est dans l'impasse. Parce que la France ne peut pas toute seule, elle ne peut pas répondre aux problèmes de Calais sans voilà, dialoguer avec ses voisins, si possible avec l'Angleterre, etc. Et actuellement, on sait que la politique européenne est également dans l'impasse, puisque ce qui domine, c'est le règlement Dublin. Et vous savez que le règlement de Dublin 4 prévoit que la personne ne peut demander sa demande d'asile que dans le premier pays où elle arrive. C'est-à-dire en Italie, en Grèce, voilà, en Espagne. Et évidemment, il y a un pacte qui est prévu, mais mettre les 27 d'accord, ça paraît impossible. Ne jetons pas trop vite la pierre, je pense encore une fois. Moi, je pense que le temps des politiques est complexe et il est difficile. Pour la France, on ne peut pas faire abstraction du contexte présidentiel. Donc, là encore, je pense qu'il faut essayer de conjuguer, d'essayer d'être constructif, de faire ce qu'on peut, sans idéaliser, parce que moi je suis bien d'accord aussi, hein, il ne s'agit pas d'idéaliser ni le pauvre, ni le migrant, ni chacun de nous. Et parfois, il faut dénoncer des choses qui ne vont pas. Oui, la fermeté n'est pas contraire à la fraternité.
Alors, effectivement, le rôle des médias, bonne question, Stéphanie.
Oui, je juste dire deux, trois mots là-dessus, puisque je suis là au nom de la radio RCF. Et c'est vrai que ces temps de campagne électorale sont des temps très très compliqués pour nous. Ça revient tous les 5 ans, comme le temps de la loi sur le mariage pour tous a été très très compliqué parce que c'est des temps où les chrétiens et les catholiques particulièrement sont divisés. Et nous, on est une radio très grand public avec des gens de tous bords qui nous écoutent. Et donc c'est très très compliqué dans ces moments-là parce que dès qu'on va aborder ces questions, et je sais que la diffusion de ce débat va donner lieu à des courriers de gens qui vont nous dire comment vous pouvez vous prendre à des grands intellectuels comme Chantal Dessolles, comme Rémi Brague ou comme Pierre Manant. C'est pas des gros beaufs en fait qu'on a en face de nous. Donc il y a un immense respect à avoir auprès de tous les auditeurs. Et nous, il nous reste à faire notre travail de journaliste, c'est-à-dire essayer d'aller sur le terrain, de rencontrer les responsables d'associations pour qu'ils nous disent quelle est la réalité du terrain, quelle est la vie. C'est vrai que ça nous appartient de faire changer le regard, mais avec éminemment de respect pour les gens. C'est pour ça que j'ai posé la question de la peur au début, aux gens qui s'inquiètent, les gens qui ont des vies difficiles. Je suis très touchée par ce que vient de dire Véronique sur la situation des Calaisiens, des personnes calaisiennes qui vivent en situation de pauvreté. Voilà, tout ça, il faut qu'on l'ait aussi en tête. Il n'y a pas d'évidence et... Voilà, et donc ça, nous, ça nous appelle à une seule chose comme journaliste, c'est faire notre travail de journaliste, c'est-à-dire dire ce qu'on voit, le rapporter sans jugement, et après recevoir le courrier et essayer de répondre avec bienveillance et conviction, mais c'est pas toujours facile.
Alors, Benoît, pour un élément, et nous allons en rester là pratiquement, puisque nous avons atteint la date, leur limite. Mais Benoît, oui, si tu as la parole.
Un petit mot peut-être sur le rôle des médias et la société civile. Actuellement, nous préparons notre prochain dossier. Ben, c'est aussi la responsabilité de la rédaction. Hein. Action, contemplation. Il faut être dans l'œil du cyclone, mais il faut se mettre un peu en retrait pour voir. Attention, actuellement, le traitement médiatique, il est contagieux, enfin, c'est anxiogène. On tente de nous imposer 3 grandes thématiques et si on ne fait pas attention, on ne va pas s'en sortir. Ben, nous, on prépare en tout cas notre prochain dossier et on a décidé de le faire sur le thème du pouvoir de l'imagination et en un parti pris. Donc il y aura une démarche réflexive, mais on va le faire en partenariat avec le pacte du pouvoir de vivre. Alors voilà, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, c'est pas parfait, mais le pacte du pouvoir de vivre réunit plus de 60-65 organisations, fondations, syndicats, qui s'engagent clairement dans le champ politique, mais un engagement politique non partisan. Et c'est un collectif qui est en mesure de présenter 90 propositions concrètes. Et concrètement, ils essayent de tenir à la fois la question écologique, sociale et repenser la démocratie. En tout cas, notre modèle démocratique représentatif qui est sérieusement en panne. Donc je veux dire que si on cherche, et les médias n'en parlent pas beaucoup, mais il y a des choses qui s'opèrent. Et tout ça, il faudrait que ça rentre en dialectique avec les églises, avec les partis, etc. Mais pour l'heure, ils rament. Mais bon, il y a de belles figures, notamment Véronique, Laurent Berger, etc. Merci.
Alain, oui, un mot.
Oui, c'est vrai que l'Église, on est divisé. On n'a pas les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes opinions. Mais faut-il s'en effrayer? C'est ça la question. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord, mais est-ce qu'on est capable de discuter et de dialoguer ensemble? Alors, le pape nous invite à un processus synodal, ben mettons-le en œuvre. On n'est pas d'accord, ben parlons, argumentons, confrontons nos expériences. C'est ça qui va nous faire avancer, c'est pas restant chacun dans son coin. Et voilà. Donc je pense que là, c'est lié avec le processus synodal auquel on est invité. Ben, si on y arrive à faire ça, c'est peut-être pas mauvais pour la société de voir ce que nous on peut le faire et que peut-être la société peut le faire aussi.
Voilà, ben c'est cette invitation au dialogue, au débat, à la confrontation. Nous terminons cette soirée. Merci donc aux intervenants de la table ronde. Merci à votre présence ce soir. Le prochain mardi d'éthique publique aura lieu non pas le 1er, mais le 2e mardi de janvier. Le 1er étant le 4, on a trouvé que c'était un petit peu tôt. Donc le 11 janvier, mardi 11 janvier, ce sera probablement sur la situation des États-Unis un an après l'élection de Joe Biden. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats et que la situation, est intéressante à examiner précisément. L'évolution de la société américaine, les États-Unis étant un pays qui continue à compter fortement dans les relations internationales, la situation du monde. Donc c'est probablement, ce sera précisé, le thème que nous aborderons début janvier. Donc bonne fête de Noël, si le mot est encore prononçable. Bonne fête de Noël à vous et bonne fin d'année et à bientôt.